Oui, alors je disais plus ou moins parce que vous l'avez compris probablement de mon nom, de mon accent qui est un peu... qui n'est pas exactement facile à comprendre d'où je viens, parce que parfois on me dit « Ah mais t'es allemande ?» Non, je ne suis pas allemande. « Ah mais t'es italienne ?» Ah non, je ne suis pas italienne. En fait, je suis suisse et je viens de la Suisse italophone. Et donc, voilà. Donc, mais je suis partie, il y a très du Tessin pour les gens qui connaissent un tout petit peu. Cet endroit que tout le monde trouve magnifique, très très beau, et que moi j'ai quitté il y a 30 ans, et que jamais j'ai pensé d'y retourner vivre. Mais c'est toujours comme ça, hein. On habite dans des endroits, c'est très beau effectivement, mais moi c'était un peu trop coincé entre ces 300 000 personnes, une minorité linguistique, 300 000 personnes qui sont coincées entre l'Italie et les Alpes, et ça fait un mélange de gens un peu fermés pour moi. Et l'horizon des Alpes m'a toujours été très très... J'ai toujours rêvé d'Afrique, de partir loin, et après, bon, les choses font qu'aujourd'hui, je suis devenue un peu Madame Alpes à Grenoble. Quand on parle montagne, ils viennent me voir, et je ne comprends pas très bien pourquoi, mais bon, voilà. Donc, je travaille à l'Université Grenoble-Alpes, à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Je suis directrice de la revue de géographie alpine, et je travaille au LABEX, qui est un consortium de laboratoires qui travaille sur les transitions en montagne. Donc vous voyez, mon idée de partir loin et de ne plus voir les montagnes, ça a été raté. Ouais, effectivement, ça a été raté. Non, donc voilà, donc, je suis très, très heureuse en fait, de vous voir comme ça, nombreux et nombreuses. J'espère que vous n'êtes pas déçus, malgré que vous êtes déplacés avec la pluie et tout ça. On ne va pas parler de trucs joyeux, je vous le dis tout de suite. Ma spécialité depuis quelques années, c'est de travailler sur les morts des frontières. Et je dis bien des frontières et pas aux frontières, parce que les personnes qui travaillent là-dessus considèrent que c'est bien les frontières qui tuent et ce n'est pas aux frontières qu'on meurt. Et donc voilà, depuis maintenant 4 ou 5 ans, je travaille, je me concentre vraiment là-dessus, sur deux projets, on va dire, comme ça je vous donne le décor, et puis après on va comprendre pourquoi en fait ces frontières tuent, et on va un peu faire un petit voyage à la fois dans l'histoire, alors je ne suis pas historienne, mais on va un peu regarder comment ça s'est mis en place en fait, ces frontières qui aujourd'hui sont des frontières the dead borders, comme disent les anglophones, donc des frontières létales, des frontières mortifères. J'ai un peu travaillé ces dernières années sur deux projets. Un projet que je mène avec des informaticiens, donc avec le laboratoire d'informatique de Grenoble, et qui est un travail sur le comptage des morts aux frontières européennes, parce qu'il y a énormément vous le savez, hein, il y a beaucoup de morts, on va en parler tout à l'heure, mais beaucoup de personnes qui ne sont pas identifiées, qui n'ont pas de nom. On ne sait pas combien de personnes sont décédées aux frontières européennes, dans la Méditerranée, mais pas que. Et... On le verra aussi, il y a une personne qui s'appelle Gert Hattes, et qui est un monsieur qui a maintenant 63 ans et qui, depuis 1993, compte les morts aux frontières. Et c'est la base de données, un jeu de données le plus fiable qu'on ait aujourd'hui. Et ce monsieur, il m'a dit un jour qu'il voulait quand même arrêter de faire ça. Et puis il dit, je suis en train de... Petit à petit, il faut que je passe le relais. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, c'est toi qui vas faire ça. Merci beaucoup. Donc voilà, donc j'ai essayé de ne pas le faire moi toute seule, mais d'essayer de le voir ce qu'on pouvait faire aussi, notamment avec des collègues qui travaillent sur les questions de bases de données et informatique. Donc ça, c'est le travail un peu, comment dire, macro. Et puis j'étais faire un travail micro, au niveau de La Vachette, vous voyez La Vachette, et c'est ce village à l'entrée de la vallée de la Clarée, pas loin de Briançon, où on a travaillé avec une équipe, avec une association sur place, qui est une association qui s'appelle aujourd'hui Toutes et Tous Migrants. Avant, elle s'appelait juste Tous Migrants, et puis ils ont changé de nom, c'est Toutes et Tous Migrants. Et une autre association qui s'appelle Border Forensics, qui fait un travail travaille sur les violences d'État, et ils essaient de comprendre les dynamiques de la violence d'État. toujours en mettant en lien la violence directe, un événement, un cas précis, avec la violence structurelle qui, elle, permet en fait à cette violence directe de se déployer. Et donc, on a travaillé sur un cas précis, c'est la mort de cette jeune femme que probablement le nom vous dit quelque chose, qui s'appelle Blessing Matthew, et qui est un peu la première personne qui est décédée à la frontière italo-française, c'était le 7 mai 2018. Et donc, on a fait tout un travail de reconstitution de la chaîne létale, comme on l'appelle, hein, de la chaîne des événements qui ont amené à la mort de Blessing Matthew. Donc ça, c'était vraiment, on a parcouru la vachette dans tous les détails. Je connais les pierres de la vachette. Donc on peut, ce travail-là a double focale, la focale micro-micro et la focale macro. C'est un peu sur ça que... Voilà, que je travaille. Je vous dis que je l'ai mis, je pense, dans une des slides. Dimanche matin, il y aura dans l'émission Interception de France Inter, il y a un reportage, un grand reportage sur la contre-enquête citoyenne qu'on a faite sur la mort de Blessing Matthew. Elle est déjà disponible sur le site de France Inter. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en podcast avant même que ça soit diffusé en ligne. Bon, voilà, donc il y a ça. Et on est en train de préparer la deuxième partie de l'enquête. Mais ça, peut-être on en parlera l'année prochaine si je viens vous parler de Blessing Matthew. Pour l'heure, je voulais juste, en fait, avec vous ce soir, essayer de faire un peu, comme ça, un panorama, justement, comme je vous ai dit, de comment on en est arrivé à cette violence, à cette grande violence, qui est une violence structurelle, hein, qui est une violence qui s'est construite dans le temps, qui est une violence d'État aussi, aux frontières, et qui fait qu'aujourd'hui, on a, encore une fois, tant de personnes qui décèdent en essayant de traverser la frontière. Et je vais un peu avec vous déconstruire ce qu'on peut appeler le piège territorial qu'on s'est construit, que les États, notamment les États européens, ont construit durant le moment dans lequel ils ont été mis en place et puis jusqu'à aujourd'hui. Et on va essayer, alors vous comprenez tout de suite d'où je parle, le monde d'hier, je pense que quelqu'un, la référence peut-être vous parle, je ne sais pas si ça vous parle, ouais, Stefan Zweig. Hein. Donc comment est-ce qu'on est passé du monde d'hier au monde d'aujourd'hui? Alors ce monde d'hier et ce monde entre deux, en fait il y a eu ce moment que... Je me rends compte que, voilà, que mes étudiants ne savent même plus ce qui s'est passé en 2015, bientôt, alors que c'est il y a 10 ans. y a eu un moment qui est celui de la chute du mur, de la chute de l'Union soviétique, où on se rappelle là dans la salle, tous et toutes, on disait plus de mur, il n'y aura plus de frontières, il y aura un monde en paix, blablabla. Blablabla. C'était un peu la fin de l'histoire, hein. Fukuyama disait ça, la fin de l'histoire et la fin de la géographie, le village global et tout le monde peut circuler où il voudra. Et en fait, on s'est rendu compte que le monde d'hier était fini et le monde d'aujourd'hui n'est pas celui qui avait été imaginé au moment de la chute du mur. C'était quoi ce monde d'hier? Alors, d'un intellectuel quand même, hein, donc d'une personne qui avait les moyens, l'envie et la curiosité de voyager, pas tout le monde pouvait quand même voyager à l'époque. Mais les personnes qui avaient cette envie de voyager, ils racontaient ces moments de voyage comme ça. Et donc, le livre de Stefan Zweig a été publié en 1942, après son suicide en Amérique latine. Avant 1914, dit-il, la terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait point de permission, point d'autorisation, et je m'amuse toujours de l'étonnement des jeunes quand je leur raconte qu'avant 1914, je voyageais en Inde et en Amérique, sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais vu un. Donc ça, c'était le monde de Stefan Zweig. Encore une fois, hein, je vous rappelle quand même, c'était un intellectuel, une élite. Pas tout le monde pouvait voyager, mais simplement parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers de le faire. Le monde d'hier ressemblait un petit peu à tout ça. Hein, une carte, c'est une carte qui a été faite par Philippe Rivière. Je vais beaucoup parler de deux Philippes ce soir, de Philippe Rivière, mais surtout de Philippe Rekachevitz, qui est un ami avant tout, mais aussi un très, très grand cartographe. Donc là, hein, le monde ouvert, tout est jaune, tout le monde peut aller où il veut. C'est un monde utopique qu'aujourd'hui n'existe pas. Le monde d'aujourd'hui ressemble beaucoup plus à cette carte que vous voyez là. Et ça, c'est l'ami Philippe Rekachevitz, dit Reka, qui a fait cette carte où vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Même si vous êtes loin, même si vous connaissez pas très bien le monde, en fait, ce qu'on appelle en géographie, en cartographie, l'intention cartographique, l'intention du cartographe ou de la cartographe, on la voit tout de suite. On voit du rouge, on voit des dents, on voit des traits qui sont situés là où il y a les pays les plus riches et qui, en fait, menacent éventuellement les personnes qui veulent entrer des pays plus pauvres vers les pays plus riches. Et en fait, c'est ce qu'il a appelé Philippe Rekachevitz quand il a fait cette carte, la sanctuarisation du monde. Donc, on a créé des sanctuaires qui ne sont pas des refuges, ou sont des refuges, mais pour ceux qui sont dedans, mais pas pour ceux qui sont en dehors. Et ces sanctuaires-là, on les a construits avec deux instruments. Des instruments qui peuvent être considérés des instruments législatifs, et c'était notamment l'introduction de visas, qui n'existait pas à un moment, ça n'a pas toujours existé les visas, hein. Et des obstacles physiques, des murs, des barrières, et toute autre sorte de technologie plus qu'avancée. Alors, je ne sais pas si vous savez, la Grèce a mis en place à la frontière terrestre un mur sonore, mais non. Donc, il y a un mur qui émane des sons très, très forts. Et en fait, si vous vous rapprochez, vous cassez le tympan. Et donc, c'est des murs, voilà. Donc, c'est le cynisme et la technologie n'ont pas de limite. Donc, on peut se poser justement cette question de qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux mondes-là, entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Et évidemment, entre ces deux mondes-là, il y a eu, Stefan Zweig a écrit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux guerres mondiales. Et ces guerres mondiales ont beaucoup conditionné la manière de pouvoir ou pas circuler dans le monde. Et on va faire un bref détour par l'histoire pour comprendre la géographie d'aujourd'hui. Et au fil de l'histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des systèmes qui ont été mis en place pour essayer de protéger des personnes qui essayaient de fuir le leur parce qu'ils étaient mis en danger. Et ces systèmes-là ont été mis en place selon les époques de manière différente. Par exemple, on a essayer de trouver un moyen de protéger les personnes qui ont fui la révolution bolchévique, la révolution soviétique et bolchévique, et qui se sont retrouvées apatrides et qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, protéger parce qu'ils erraient dans l'espace européen. On a essayé aussi d'éviter les drames qui ont suivi, qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, de juifs, personnes d'origine juive, et qui, en fait, ont été massacrées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là aussi, des personnes qui, pendant la période nazie, en fait, ont essayé de trouver refuge à droite et à gauche, et personne, aucun État, vous vous rappelez de la conférence d'Évian, j'imagine, hein, aucun État ne leur donnait refuge. On a aussi, plus tard, trouvé le moyen d'accueillir les dissidents du régime communiste durant la guerre froide. Donc, en fait, ces moments-là, c'est quand même des moments dans lesquels il y a des politiques qui se posent la question de comment protéger certaines personnes, ou pas d'ailleurs. Les prémices de cette mise en place de système de protection, c'est ce monsieur que vous voyez, que vous connaissez peut-être, qui est Fridtjof Nansen. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce qu'il y a un mot qui est associé à Nansen qui vous vient à l'esprit ? Le passeport. Hein, le passeport Nansen, ça a été le premier document que notamment, peut-être ici dans la région, les personnes qui ont de la famille arménienne savent, beaucoup d'Arméniens et d'Arméniennes ont eu dans les mains ce passeport Nansen. Ce passeport Nansen, ça a été pensé par ce monsieur qui était un voyageur norvégien, et diplomate et voyageur norvégien. Et ça a permis aux personnes qui étaient apatrides, donc les Russes, mais aussi les Arméniens plus tard, de pouvoir aller quelque part, parce qu'une fois qu'on est apatride et on sort de la Russie ou de l'Union soviétique à l'époque, hein, et qu'on n'a plus de pays, ben, on ne peut plus rentrer dans un autre. Et donc, en fait, c'était un gros truc. Hein, c'était un papier, c'était un énorme papier où il y avait plein de stempels. Et dans toutes les étapes, on laissait passer les personnes pour arriver notamment en France pour les Arméniens. D'accord. Et ça a été un peu, c'était un peu le premier visa, le premier même document d'asile ou de refuge qu'on a mis en place. C'est ce qui était intéressant et ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui avec le système de l'asile, c'est que c'était un document collectif. Donc l'asile, la protection était donnée à des personnes, le passeport était donné à des personnes parce que arméniens, parce que russes. D'accord. Et donc, en fait, il fallait simplement se montrer ou se déclarer arménien pour pouvoir recevoir une protection. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, comme vous le savez. Les demandes d'asile sont analysées de façon individuelle. Donc, on a vraiment perdu ce côté collectif de la protection. Arrive ensuite, en 1948, donc à la fin, une fois que la Deuxième Guerre mondiale est terminée, et qu'on se dit plus jamais ça, hein, bon, ça durait pas très, très longtemps, ce plus jamais ça, mais on s'était dit à l'époque, plus jamais ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que le drame de la Deuxième Guerre mondiale n'advienne plus? Et on a commencé à penser, imaginer, à rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je pense que vous connaissez tous et toutes ici dans la salle l'article 14 qui dit, et je vous le lis, « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. » Et là, vous voyez que « en d'autres pays » signifie bien, ce qui est normal, hein, si on est persécuté dans son propre pays, c'est ailleurs qu'on va trouver une protection, mais ça demande le passage d'une frontière. Et ça va continuer à être comme ça. Hein. Il y a toute cette idée du passage de frontière. L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, emblématiquement, avant l'article 14, arrive l'article 13. Ça, il faut juste savoir compter pour dire ça. Mais quand on lit l'article 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans l'esprit des rédacteurs de l'époque, on était conscient qu'on ne pouvait pas donner une définition du réfugié impliquant un passage de frontière sans par ailleurs traiter de la question du passage de la frontière elle-même. La liberté de circuler a donc été inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de manière significative avant l'article portant sur le droit de demander asile. Donc on dit avant qu'on peut traverser les frontières, et puis après on dit, eh bien on peut recevoir une protection. Et l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme dit deux choses. La première, c'est que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que toute personne, c'est le deuxième alinéa, a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Le premier, sur la liberté de circulation à l'intérieur du pays, était pensé notamment pour les personnes en Union soviétique, hein, où on ne pouvait pas circuler comme aujourd'hui en Chine, on ne peut pas circuler librement à l'intérieur du pays. Mais quand vous voyez ça, qu'est-ce qui vous manque? On peut circuler dans le pays, on peut sortir du pays, mais vu que en fait, le monde est divisé en États, nations, contigus, si on me donne le droit de sortir d'un pays, mais on ne me donne pas le droit de rentrer dans un autre, on est bien embêté. En fait, comme le dit François Héran, que vous connaissez peut-être, il dit bah, « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Il répète là la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais aucun texte, il ajoute, n'énonce son pendant logique, c'est-à-dire le droit d'immigrer dans le pays de son choix. Alors cette possibilité d'entrer dans des pays, dans des pays pour trouver refuge a été discutée lors des discussions autour du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en fait, la version souverainiste étatique est celle qui a en fait gagné lors des pourparlers diplomatiques. Et donc aujourd'hui, on a encore cette vision-là de la question du refuge qui est mise en place. Arrive, après la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur le statut des réfugiés, la dite Convention de Genève, qui n'est pas celle sur la guerre, mais celle sur les réfugiés, de 1951. Et en fait, cette Convention de Genève résout en partie ce problème-là de qui peut entrer dans le pays. Il le résout en partie. Il le résout en partie parce qu'en fait, il décide quels critères, sur la base de quels critères les personnes peuvent entrer dans un pays. Et en fait, à chaque fois, comme toujours, hein, si tu définis à la fois, bon, il définit qui est réfugié, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il dit aussi que seulement certaines catégories de personnes peuvent rentrer, pas d'autres. Et donc, du coup, en fait, vous faites un choix. Et le choix est le choix qui est dicté de la période et l'époque dans laquelle on est. On est en mai 1951. Comme je vous ai dit, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. On ne dit plus jamais ça, plus jamais le drame qui s'est passé avec les Juifs en Allemagne et en Europe. Mais on est aussi quand ? C'est aussi le début de quoi ? Le début de la guerre froide. Ah oui, on est en France. Hein ? Le début de la guerre froide. Et donc là, il y a deux visions différentes. Et ça, Karen Akoka a fait un très bon article dans Plein de Droits qui s'appelle « L'archétype rêvé du réfugié », quelque chose comme ça, et qui explique en fait que, eh ben, quelle est la vision qui a gagné ? C'est la vision libérale, la vision bleue, pas la vision rouge qui a gagné. Et donc, en fait, est considérée réfugiée. Et donc, la personne qui peut traverser la frontière et rentrer dans un pays, la personne qui est persécutée politiquement dans son pays d'origine. En gros, le dissident soviétique, le dissident tchèque. Aujourd'hui, on est en 2025. La guerre froide, je crois qu'elle est terminée depuis un petit moment. Et on a encore le même texte, en fait, la même base, les mêmes raisons, la même empreinte, le même réflexe même de dire, en fait, lui, c'est un réfugié politique. Et donc, lui, il est bien légitime de venir. Elle, par contre, c'est une réfugiée économique. Et donc, en fait, on ne lui donne pas le droit de rentrer. Et en fait, ça nous imprègne. C'est une idéologie qui nous imprègne et qui nous dérive, en fait, de cette discussion-là qui a eu lieu pendant la guerre froide et qui reste encore aujourd'hui d'actualité. Et je crois que j'ai un peu sauté. Non, j'ai encore une chose à vous dire. Donc, que dit l'article 1 l'article 1 de la Convention sur les réfugiés de 1951. Il dit, et je ne vais pas rentrer dans la définition, parce que là, on pourrait ouvrir encore un autre chapitre sur les critères, les 5 critères pour être reconnu comme réfugié. Le terme réfugié s'applique à toute personne qui, craignant avec raison, donc ça ne suffit plus d'avoir être arménien, il faut craindre avec raison, personnellement, d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays. Donc vous voyez que, par contre, là aussi, ça implique toujours le fait de sortir dans un pays. Et il y a un autre principe qui est contraignant, de la Convention sur le statut de réfugié, la Convention de Genève, qui est contraignant. Ça veut dire aussi que pratiquement tous les pays européens ou occidentaux ont cet article-là, pratiquement les mêmes, dans leur propre loi nationale. Et c'est l'article 33, qui est le fameux article contre le refoulement. Je crois que le mot refoulement, ça vous dit quelque chose. Et c'est l'article qui parle de la défense d'expulsion et de refoulement. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières de territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de ses nœuds. » Donc en fait, vous ne pouvez pas expulser une personne qui arrive sur votre territoire qui dit craindre avec raison d'être persécuté dans son pays. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous, en tant qu'État, vous êtes souverain de décider qui peut entrer et qui peut sortir de votre territoire. C'est une des prérogatives importantes de l'État-nation. Cette prérogative est subordonnée, par contre, à un autre principe qui est plus haut, qui est plus important, c'est le principe de non-refoulement. Vous ne pouvez pas refouler une personne qui dit être menacée dans son pays. Vous voyez que ce qui se passe, par exemple, là, à la frontière italo-française, qui est dans l'illégalité ? La personne qui traverse ou l'État qui expulse ? Donc, il suffit de déclarer, de faire comprendre, de dire, de manifester la volonté de demander l'asile pour ne pas être refoulé de l'autre côté. Ça ne signifie pas que vous obtenez après le statut de réfugié. Mais ça veut dire que vous êtes protégé dans le moment dans lequel vous traversez la frontière. Une philosophe que j'aime beaucoup, Donatella di Cesare, une philosophe italienne, ses livres sont traduits en anglais mais pas en français. Celui-là, je l'ai lu en italien. Je vous ai traduit un passage. Dit « Les droits du migrant, et en particulier sa liberté de mouvement, se heurtent à la souveraineté étatique exercée sur la nation et la domination territoriale. C'est le conflit entre les droits humains universels et la division du monde en États-nations. » Et donc, en fait, il y a aussi tout ce conflit dont un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est un géographe, lui, qui s'appelle Rhys Jones, et qui a écrit, d'ailleurs, il a été traduit entre-temps son livre qui s'appelle, je crois que c'est La violence des frontières, je pense, le titre français. Il dit, dans son livre, on théorise le mouvement et la fixité comme un conflit entre le désir de liberté et le désir de contrôle, entre les personnes qui se déplacent et celles qui veulent qu'elle reste sur place. Et en gros, ce qui nous dit là un anthropologue, philosophe qui s'appelle Nicola de Genova, je vous le dis en anglais, je vous le traduirai après. After all, if there were no borders, there would be no migrants, only mobility. Qui en français signifie, après tout, d'une simplicité incroyable, hein, s'il n'y avait pas de frontières, il n'y aurait pas de migrants, seulement de la mobilité. Quel est le résultat de tout ça ? Donc, de ce que je vous ai raconté sur les deux principes, là, plus l'article 33, donc l'article qui protège contre le refoulement. C'est quoi le résultat de ces deux conditions ? Être sorti du pays et être sur le sol d'un autre pays pour pouvoir demander une protection et une obligation des États qui est celle du principe de non-refoulement. Quelle est, du coup, la raison de construire des murs ? Pourquoi on construit des murs, du coup ? C'est hyper simple. C'est là que vous comprenez. Si les personnes, pour demander un droit, doivent... C'est là, la frontière, c'est pour ça, elle est belle, elle est toute noire, là. Si, pour demander un droit, ils doivent passer de l'autre côté. Et s'ils ont la chance de l'obtenir quand ils passent de l'autre côté. Et que l'État qui est ici ne peut pas refouler la personne qui est là et qui demande l'asile. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites tout le possible pour empêcher que, mais vraiment physiquement, hein, que la personne mette le petit doigt de l'autre côté de la frontière. Et donc vous comprenez pourquoi on fait quoi ? On construit des murs, ça je vous l'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On le verra ensemble aussi, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Quelle autre magnifique invention ont pensé les États pour éviter ça ? Ouais, non, mais la douane, non, parce qu'une fois que tu es à la douane, en fait, en réalité, les douaniers doivent te laisser passer. Si tu demandes l'asile, en théorie. S'il y a beaucoup de si, mais un petit dessin. Les dessins de presse, c'est souvent les meilleures manières. Ça ne va pas passer à la radio, mais bon, voilà. On peut le décrire comme les haltes maintenant qu'on fait pour les personnes malvoyantes. Des bateaux, des canaux, des barques, là, des bateaux. Barque, c'est italien, vous voyez. Parfois, ça vient comme ça. Qui essaye de débarquer, en fait, il y a des doigts comme ça, avec des ongles, avec les drapeaux des pays qui les repoussent de l'autre côté. Et de l'autre côté de la mer, il y a Londres, Paris et Berlin, et une belle forêt verte. Donc, je disais, ce piège territorial, parce que c'est vraiment un truc hyper matériel et territorial, comment est-ce qu'on le construit ? On le construit à trois niveaux, et on va voir les trois barrières, les trois frontières, dans une pré-frontière, dans une frontière ou sur la frontière elle-même, et après la frontière, parce qu'on continue quand même après, parce que c'est toujours bien de pas s'arrêter à la frontière, n'est-ce pas ? Il y a plein de manières aussi de faire frontière après la frontière. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe à la pré-frontière ? Comment est-ce qu'on peut empêcher de faire le petit pas de l'autre côté de la frontière avant la frontière ? En fait, on a mis en place un truc très bête qui s'appelle un visa. Un visa, c'est une manière d'empêcher aux personnes... Tu voulais le dire, hein ? Tu ne l'as pas dit ? Eh bien, voilà ! Eh bien, voilà ! Un visa, c'est ça ? C'est avoir la frontière ailleurs que sur son propre sol. On dit, en fait... Et tout le monde peut demander le visa. Hein. Le problème, c'est de le recevoir. N'oublions pas ça, et je crois que beaucoup de personnes ici dans la salle se rappellent, avant 1980, allez, on va dire, la Méditerranée est un espace ouvert. Moi, quand j'allais en vacances en Italie sur les plages avec mes parents, il y avait plein de Sénégalais. Ils faisaient quoi, les Sénégalais ? Ils faisaient une saison en Italie pour vendre des trucs, puis rentrer chez eux. C'est des commerçants souvent. Et puis ils revenaient, puis ils passaient, puis ils revenaient. La Méditerranée comme espace ouvert, ça a été longtemps le cas. On a juste oublié que c'était possible et que quand l'espace méditerranéen était ouvert, on était envahi par des masses incroyables de migrants qui venaient chez nous. Pourtant, les frontières étaient ouvertes. Pourtant, les gens pouvaient prendre un ferry pour venir ici à un prix raisonnable. Je vous montre les trois frontières sur cette carte de Philippe Rekachevitz. Vous avez commencé à le connaître aussi. Où vous voyez, en fait, il y en a une qui est là au milieu du désert, qui est une espèce de ligne un peu floue, parce qu'on ne sait pas très bien où elle commence, où elle finit. Ce n'est pas une vraie frontière linéaire, c'est plutôt une zone où il y a des trucs qui se passent dans cette pré-frontière. Il y a la frontière rouge, celle de l'espace Schengen, la frontière elle-même, qui est celle des morts. Les grands ronds, c'est les personnes qui sont décédées. Et puis, à la post-frontière, c'est ces points que vous voyez noirs qui, avant, étaient que à l'intérieur du cercle rouge, de l'espace rouge, de l'Europe, en fait, et que petit à petit sont allés un peu plus loin. C'est les centres de rétention administrative, hein, et qui, maintenant, l'Union européenne finance aussi au-delà de sa propre frontière. On va voir cette pré-frontière-là. Donc, je vous ai dit, hein, les visas. Et après, il y a aussi une autre chose que vous savez très bien, mais peut-être vous n'avez jamais imaginé. Quand vous prenez un avion et qu'on vous contrôle le passeport, est-ce que c'est des douaniers que vous avez en face ? Est-ce que c'est la police aux frontières que vous avez dans l'aéroport de Katmandou ? Non, c'est des employés de KLM, Air France, Alitalia. Pourtant, ils vous contrôlent les papiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les compagnies aériennes, et ça c'est une loi européenne, sont lourdement pénalisées s'ils prennent à bord des personnes qui n'ont pas les bons papiers pour descendre de l'avion. Donc en fait, on a externalisé à des compagnies privées le contrôle des frontières, qui se fait à l'extérieur de l'Union européenne, qui s'est fait bien avant de l'Union européenne. Et je peux vous garantir que c'est cher. Là, il y a c'était un ami, mais ça date, hein, je n'ai pas les dates, les données. La France, en 2014, donc je ne sais pas ce qu'on est, avait payé donc, les compagnies françaises 7 millions d'euros d'amende. Parce qu'ils avaient eu à bord des personnes qui n'avaient pas les bons papiers. Donc en fait, si vous êtes une compagnie aérienne, parce qu'on peut vous bloquer les avions sans qu'ils puissent repartir, des choses comme ça. Si vous êtes une compagnie aérienne, eh bien, vous faites le contrôle et vous essayez de le faire bien. Parce que sinon, ça vous coûte cher. Oui, c'est une manière, en fait, de faire une frontière là où la frontière n'est pas. Et après, on parle aussi de externalisation des contrôles frontaliers. En fait, avec des opérations type ERA, ça c'est la première opération de Frontex, nos gardes frontières européens, des pays européens, sont au milieu du désert. La frontière, en fait, se déplace au milieu du désert. On contrôle les personnes qui partent avec nos flottes, avec nos hommes. C'est surtout des hommes, il y a aussi quelques femmes. Mais voilà. On appelle ça l'externalisation des contrôles frontaliers. Il y a aussi ce qu'on a appelé la politique européenne de voisinage, des différents accords, et notamment des accords de développement, hein, la conditionnalité de l'aide au développement. Moi, je vous donne de l'argent, je vous construis des routes, je vous construis même des écoles, mais vous contrôlez les frontières. Et si vous ne le faites pas, je ne vous donne pas l'argent. Ça s'appelle la conditionnalité de l'aide au développement. Vous voyez, il y a plein de manières de contrôler les frontières avant même que la personne parte. Ou sinon, le long du chemin, avant qu'elle arrive sur la frontière, parce que du moment dans lequel on arrive sur la frontière, on a des droits. Et la conséquence de tout ça, visa denied, refus, refus du visa, le résultat, vous l'avez là. C'est toutes les personnes qui, de toute façon, partent parce que vous pouvez empêcher personne de vouloir partir et que, en fait, se retrouvent noyés en Méditerranée. Donc, en fait, une fois que vous avez tout ça, et ça, c'est des exemples de choses qu'on a mis en place de plus en plus sophistiquées, de plus en plus coûteuses, on met de l'argent à l'infini, qui se font avant la frontière. Sur la frontière, comme on avait dit, ben, quand en fait les gens, quand même, vous essayez tout ce que vous pouvez, vous essayez de donner l'argent aux États pour qu'ils ne partent pas, vous essayez de pénaliser les compagnies aériennes, et pourtant les gens partent, ben, vous n'avez qu'une chose à faire, la seule qui vous reste une fois que la personne arrive à la frontière, c'est de faire le mur sur la frontière pour empêcher que vraiment là, pour le coup, ils sont presque là. Mais juste ça qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, et puis on invente des trucs, ça je crois que je ne vous l'ai pas mis, donc je vous le dis, on invente des trucs incroyables. Je ne sais pas si vous savez, l'Australie, le fameux modèle australien que l'Europe veut copier, l'Australie a mis en place ce qu'ils ont appelé, tenez-vous bien, l'excision territoriale. C'est une loi qui s'appelle Territorial Excision. Donc c'est vraiment, littéralement comme ça. Ça veut dire qu'ils ont décidé que leur côte, quand vous arrivez par bateau, eh bien, c'est plus vraiment l'Australie, c'est pas eux. Donc, en fait, on trouve des moyens pour dire que ben, cet espace-là, c'est plus le nôtre. On l'enlève, du coup, vu que c'est pas le nôtre, on peut plus décider, nous. L'Espagne, la triple barrière, je sais pas si vous voyez, mais la barrière entre Melilla et entre le Maroc et l'Espagne, dans l'enclave, c'est une triple barrière. Il y a une, deux, trois. L'espace entre deux, c'est pas à eux. C'est plus vraiment à nous. Donc, en fait, vu que c'est plus vraiment à nous, les gens qui rentrent au milieu, eh bien, on peut les refouler. C'est ce qu'ils appellent les devoluciones en caliente, les refoulements à chaud. Mais on se prive d'un petit bout de territoire comme ça. Complètement délirant. Hein. Mais voilà, donc on invente aussi sur la frontière plein de choses comme ça. Et vous voyez que quand on a dit aussi fini le mur de Berlin, il n'y aura plus de mur dans le monde, et bien, c'est pas vraiment comme ça que l'histoire s'est écrite. Hein, et de plus en plus. Alors le premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier sur le sol européen, vous savez quand c'était ? Le premier mur après anti-migrant, si on veut dire comme ça, 2012. J'étais moi à l'époque sur le terrain. C'était à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie. Donc 2012, c'était le premier. C'était inauguré en décembre 2012. Donc voilà. Donc plein de murs. Je vous ai mis ça. Et surtout. Et ça aussi, on l'oublie. Pourquoi on construit des murs ? Oui, aussi pour essayer d'empêcher les personnes de passer, mais en réalité, les personnes passent de toute façon. Hein, ils contournent, ils passent. Hein. Pardon ? Exactement. Alors ça, c'est un business de la mort. Et un vrai business de la mort. Mais c'est un vrai, énorme business. N'oubliez pas que c'est... je vous le garantis aussi. Je le soupçonne très fortement. Non, mais c'est vraiment ce qu'on a appelé parfois le complexe militaro-industriel, qui fait à la fois aujourd'hui du civil et de la guerre. En fait, ils font des salons militaires où ils vendent notamment cette technologie-là, par exemple, que je vous disais, hein, celle de murs sonores et tout ça. C'est des millions et des milliards qui vont dans des entreprises privées, Leonardo, je ne sais pas quel autre, Thales, donc c'est vraiment les volets Airbus. Donc c'est vraiment, et ça c'est un super TNI, Trans, je ne sais plus ce que c'est le nom de l'association, fait un super travail sur ça, en fait, sur tout cet aspect du gros business de la construction des frontières. Et c'est la raison numéro une pour laquelle on construit des murs. Et la technologie qui est développée, c'est la technologie qui nous servira après pour nous surveiller, comme ils ont surveillé avant des gens qui ne se défendaient pas. Le coût des murs, là, c'est un peu difficile hein, de trouver les chiffres, mais vous voyez, là, j'en ai trouvé quelques-unes. La clôture entre la Croatie et la Slovénie, par exemple, a coûté 100 millions d'euros pour une efficacité plus que discutable. Par ailleurs, je l'ai écrit là, j'étais sur place il y a 2 ans, à la frontière entre la Slovénie et la Croatie. Vous faites comme ça et elle tombe. Bref, ça a coûté 100 millions d'euros, comme ça. Juste... et c'est hyper simple, hein. Les sophistiqués, c'est plein de choses. Je vous lis ce qu'a dit à l'époque Twitter François Gemène, que vous connaissez probablement. Et il a écrit ça en 2020. Il dit « Derrière la question de la fermeture des frontières, il y a un énorme business. À la fois un business pour les industries de surveillance et d'armement, c'est aussi un énorme business pour les passeurs. Aujourd'hui devenu le 3e trafic illégal le plus rentable au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de 35 milliards de dollars. Avec aussi cette caractéristique qui le rend tellement attractif. Avec les migrants, contrairement au trafic de drogue ou au trafic d'armes, quand vous perdez la marchandise, il n'y a personne qui vient vous la réclamer. » Autre conséquence de cette... politique de fermeture, de cette politique de la guerre aux migrants, c'est que vous créez, en fait, une fois que les personnes rentrent, vu les conditions difficiles dans lesquelles, et vous le savez très bien, le voyage se fait, c'est qu'en fait, vous créez les conditions de l'hyper-exploitation. L'Union européenne et les États de l'Union européenne, c'est pas qu'ils veulent pas avoir des gens qui rentrent. Mais ils voudraient bien avoir des gens qui peuvent exploiter à merci. Et donc, en fait, de faire rentrer des personnes de plus en plus vulnérables, sans droit parce qu'ils n'ont pas de papier, eh bien, c'est fantastique. Vous pouvez avoir, comme moi je me fâche toujours quand je vais en Italie, voir des affiches de supermarchés où il dit « on vous vend des tomates sotto costo, en dessous du prix coûtant ». Ben oui, mais qui paye le prix ? Eh bien, qui paye le prix, c'est ces personnes que vous avez rendues vulnérables. Rendu faible, rendu sans droit. Et donc, en fait, une des conséquences, c'est celle de créer les conditions d'hyper-exploitation où certains immigrants et réfugiés entrent, mais dans une situation d'extrême précarité. Si vous êtes sans papier, vous travaillez pour moins que le salaire minimum. Si vous tentez de vous syndiquer, vous serez menacé d'expulsion. Les frontières maintiennent la citoyenneté raciale et créent un réservoir de main-d'œuvre bon marché, hyper exploitable. C'est le mot de Louise Bucket dans The Guardian, dans le journal. Et puis, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, l'autre conséquence, c'est toutes les personnes. Parce que quand je dis tout le monde peut passer, sauf ceux qui décèdent, les autres passent. Vulnérables, fragiles, ils passent. Ceux qui ne passent pas, c'est ceux qui ne passent pas réellement, qui disparaissent, qui meurent. C'est une très belle carte, celle-ci. C'est une carte qui a été faite par... pourquoi je ne l'ai pas écrit ? Lévi Westerveld, je crois. Je ne sais pas si vous comprenez cette carte. Est-ce que vous la comprenez? Vous devez vous mettre en position, comme si vous voyez l'horizon. Là-haut, c'est l'horizon Europe, vous voyez? Et vous, vous êtes en Algérie, en Libye, en Turquie. Et donc, vous voyez là, là très loin. Le... Et chaque point, c'est une personne qui est décédée. Et en fait, si vous regardez cette carte, vous pouvez la, la zoomer et vous la voyez. Mais je la trouve très belle parce qu'il y a vraiment cette perspective de l'Europe. Vous voyez vraiment cette perspective vers l'Europe et cette impossibilité de la rejoindre. Et voilà, c'était ça que je voulais vous montrer et je l'avais effectivement mis. Hein? La première personne qu'on voit, dont on voit la photo, décédée sur les plages, en, ça c'est en, en Espagne. C'est une photo qui était à qui est morte en tentant de traverser l'étroit de Gibraltar. Et c'est une photo qui était prise par Ildefonso Sena, un photographe. Et en fait, vous voyez, c'est 1988. C'est quand on commence vraiment à mettre en place les politiques de visa, les premières tentatives d'externalisation des frontières et tout ça. Avant, vous ne voyez pas ça. Les morts aux frontières sont la conséquence directe des politiques migratoires restrictives et des politiques de fermeture des frontières. Alors, ce n'est pas une fermeture, mais on s'est compris. Et depuis, en fait, comme je vous ai dit, les États ne comptent pas ces morts-là, évidemment. Ça dérange quand même un peu, malgré tout. Et donc, les premières personnes à avoir commencé à compter ces morts-là, c'est quelques activistes, militants, dont cette personne dont je vous ai parlé, Gert, qui travaille pour une association qu'il a fondée, je pense, qui s'appelle United for Intercultural Action, qui a son siège aux Pays-Bas, et qui, tous les ans, publie une liste sous forme PDF que vous pouvez regarder, télécharger, des morts répertoriées, ceux dont on est sûr d'avoir eu des informations sur leur décès. Il en a compté, à partir de 1993, 60 519. C'est les chiffres d'une guerre. Quand on parle de guerre aux migrants, je crois qu'on y est. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on sait. C'est la pointe de l'iceberg. On peut dire, on imagine, qu'il y en a le double qui sont morts en Méditerranée et on ne sait pas trop ce qui se passe dans le Sahara. Et vous comprenez pourquoi aussi dans certains pays, les gens sont très fâchés. Les mamans, les papas, les frères, les cousins. Parce que si on calcule 60 000 fois 2, 120 000, fois 2 pour le Sahara, 250 000. Si pour chaque personne, il y en a 4 qui pleurent, on est 1 million de personnes qui pleurent. De personnes qui pleurent et qui ne savent même pas si leur enfant est vraiment décédé. Parce que de ces personnes-là, on a très très peu d'informations sur leur identité. Personne ne va regarder. Pourquoi je me fâche, et là peut-être, bon, je ne sais pas si ça va passer, mais ce n'est pas grave. Pourquoi je me fâche de ce qui se passe avec la tragédie de Grand Montana? C'est une tragédie ce qui s'est passé. On est d'accord. Ces jeunes ne devaient pas mourir en fêtant le Nouvel An. Mais on en a fait un deuil national, on a été chercher, c'était... Alors, en Italie, les lycées, il y a les psychologues qui sont été voir, la famille, les copains, parce que quand il y a un gamin qui est sans papier, qui va être mis en rétention, qui va renvoyer dans son pays, et que la classe reste sans l'enfant, ils ne savent pas ce qui se passe. Qui se préoccupe de la classe parce qu'un gamin manque sans savoir pourquoi? Personne. C'est la même chose. Aucune information sur ces personnes. Ou très peu. On y est presque. Vous êtes encore avec moi? C'est pas fini, je vous disais. Ça continue. Et ça continue, je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, sur la rétention administrative. Des gens incarcérés sans avoir fait mal à personne. Le malheur d'être né dans un pays pour lequel ils ne vont pas avoir des papiers ici chez nous. pour vous donner une petite comparaison, en Suisse, la durée de la rétention administrative, c'est 18 mois. C'est ce qui va arriver avec le pacte européen. Ça va être 18 à 24. Des gens qui sont, comme pour les enfants qui ont un travail, pour beaucoup, hein, qui sont comme ça, ponctionnés, mis en rétention, quand on sait que même si on regarde du côté de l'efficacité, en fait, on sait très bien qu'on a des chances de pouvoir renvoyer, entre guillemets, renvoyer la personne que dans les deux premiers mois. Je crois que 60% des personnes, si elles sont renvoyées au tout début de la rétention. Et en fait, le reste, on sait très bien, tous les autres mois, donc les 18 là, qui restent en Suisse, c'est de la punition. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas les renvoyer si on n'arrive pas à le faire au début. Des personnes qui sortent, et puis après, dans deux mois après, ils vont retourner parce qu'ils sont encore chopés dans un système infernal. Alors, et vous le savez, hein, la rétention administrative a de pires conditions que la détention pénale. Il y a beaucoup moins de droits si vous êtes en rétention administrative que si vous êtes en détention pénale. Vous ne savez pas quand vous allez sortir, par exemple. Vous n'avez pas une peine. En Italie, par exemple, il y a un magazine qui est le frère ou le cousin de Alternative Économique, qui s'appelle Altre Economia en italien. Ils ont fait un calcul assez simple pour voir les conditions pour montrer un petit peu les conditions dans lesquelles, comment sont traitées les personnes qui sont retenues dans des centres administratifs. Ils ont fait un calcul économique très simple. Ils ont regardé les factures qu'ils ont payées en médicaments psychotropes. Donc ils ont fait juste un calcul en combien de psychotropes ont été achetés par un tel centre de rétention. Ils ont divisé par le nombre de personnes qui sont retenues. Eh bien, je peux vous garantir que ça fait peur. Et les personnes qui sortent de là, c'est des gens qui sortent cassés. C'était peut-être en bonne santé quand ils sont rentrés et plus quand ils sont sortis. Le fameux centre d'Albanie, hein, dont vous avez entendu probablement parler, ça s'est transformé en centre de rétention. Donc au début, ça devait être un centre de tri, de, je sais pas, d'identification et de tout ça. Et maintenant, c'est devenu un centre de rétention qui coûte la peau des fesses. Vraiment, je veux dire, le coût, malheureusement, il n'y a pas assez d'économistes aujourd'hui pour faire vraiment un travail purement économique sur le coût de ces politiques. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi... non, je ne vais pas parler de ça. Il y a aussi quelque chose qu'on peut appeler une externalisation internalisée ou interne, les fameux hotspots. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. En 2015-2016, en Italie et en Grèce, on a fait ces centres fermés dans lesquels on faisait le premier tri pour, en fait... obliger les États italiens et grecs, et notamment les Italiens qui parfois fermaient quatre yeux pour ne pas prendre les empreintes digitales, qui en fait après obligent l'État à travailler pour les renvois du blanc et tout ça. Et donc en fait on a aussi fait ces centres de cette frontière à l'intérieur des pays frontaliers, des pays du sud de la Méditerranée, du nord de la Méditerranée, sud de l'Europe, qui sont l'Italie et la Grèce, qui n'ont jamais fonctionné. Parce qu'en fait, en Italie, notamment en Italie, la Grèce est un peu différent, mais en Italie, au bout de deux mois ou trois mois, les personnes devaient être relâchées. On les relâchait avec un papier blanc. Ce papier blanc, c'est écrit « Vous devez aller à Rome, prendre l'avion et rentrer chez vous. » Et bien sûr. Évidemment. Mais donc, entre-temps, ils ont passé du temps là-dedans, dans ces hotspots et dans tous ces centres d'accueil à la frontière. Il y a eu une énorme enquête il y a une quinzaine d'années qui s'appelait « Mafia Capitale ». Je crois que vous comprenez ce que je voulais vous dire. C'est que dans un des centres en Sicile, il y avait une capacité pour, je sais pas, 2000 ou 3000 personnes. L'État italien payait l'entreprise privée qui gérait les centres 35 euros par nuit. Faites 35 fois 3000 fois 30 et vous verrez combien vous gagnez. Vous ne payez pas la structure, vous leur donnez des pâtes à l'huile d'olive à bouffer tous les jours En fait, c'est tout du bénéf. Vous n'avez même pas le chauffage, vous êtes en Sicile, vous n'avez même pas besoin de chauffer. Et en fait, ces frontières, on part de loin, hein, vous vous rappelez, on part du milieu du désert, on les a sur la frontière en Méditerranée, on les a aux abords de la Méditerranée en Italie et en Grèce, et puis petit à petit, de plus en plus, et à partir de 2015 notamment, il y a aussi des frontières qui se sont rematérialisées, qui sont devenues encore pour certaines personnes des obstacles, pas pour nous, hein, mais pour certaines personnes des obstacles, et notamment les frontières alpines qui, à partir de 2000, c'est sur ça que j'ai travaillé ces dernières années aussi, un peu toutes au même moment, ils ont mis en place différentes stratégies, mais un peu toujours les mêmes, pour contrôler, arrêter, expulser des personnes qui essayaient de traverser pour aller vers le nord. Hein. On essaye toujours, hein. Ça c'était un peu le dernier cri du cygne. Une fois qu'ils sont aux portes des Alpes, l'Allemagne n'a plus grand-chose à faire, hein. Ou la France, ou les autres pays. Et donc il y a eu différentes, je ne vais pas vous donner les détails, mais différentes choses qui sont mises en place. En France, il y a eu notamment toute le contrôle aux frontières, qui depuis 2000, c'est 10 ans maintenant, donc depuis 2015, sont en place, alors que c'est complètement illégal par rapport à ce que préconise l'espace Schengen. Et j'aimerais juste, après, et j'ai presque terminé, vous dire que c'est exactement le même topo, le même discours que je peux vous tenir sur ce qui s'était passé en Méditerranée. En Méditerranée, on ne voyait pas de cadavres sur les plages avant l'introduction des visas. On n'a pas vu de mort dans les Alpes. Il y en a eu dans l'histoire, mais dans l'histoire récente, avant la mise en place, la mise en place des contrôles, la remise en place des contrôles aux frontières italo-françaises. Et ça, j'aimerais vous lire ce que le collectif citoyen de Névache, qui maintenant n'existe plus, qui est devenu un peu toutes et tous migrants aujourd'hui, a écrit en décembre 2017. Ce collectif a écrit, et je vous lis une partie, une lettre ouverte à Emmanuel Macron, qui était déjà président à l'époque. C'est l'année où je suis arrivée en France. Au cours du mois de décembre, nous avons dû, à 6 reprises au moins, faire appel au secours en montagne pour éviter la mort de migrants, non sans éviter gelures et traumatismes divers. Pas encore de mort reconnue, mais cela viendra, monsieur le président. Ça, c'était décembre 2017. Et après, le 7 mai 2018, il y a cette jeune femme, Blessing Mathieu, qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé, arrêté par les barrages, par un barrage hydroélectrique, c'est le barrage de Presles, donc dans la Durance. C'est sur cette personne-là, sur cette mort-là, qu'on a enquêté avec le collectif, avec un collectif de chercheurs, journalistes, non chercheurs et militants, activistes du Briançonnais. Et on a toujours essayé, parce que ça, c'est ce qui me tient à cœur, non pas de voir le cas d'une seule personne, et en plus, pour éviter de pouvoir parler de faits divers, d'accidents, de se dire, mais où est-ce que ça s'inscrit, cette mort-là? Dans quel contexte, dans quelle structure plus large, et dans quelle politique ça s'inscrit? Et en fait, comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer de l'analyser en profondeur comme un cas et comme le cas de Blessing Mathieu, mais que ce cas-là ne soit emblématique en fait de tous les autres, et comment est-ce qu'on peut montrer en fait que Blessing Mathieu n'est pas morte par hasard, n'est pas morte, mais qu'en fait sa mort était logique dans le sens tragique du terme. Et j'ai essayé difficilement, mais j'ai commencé à faire ce travail de recensement des morts aux frontières alpines. Donc j'ai commencé il y a quelques années, en 2018, quelque chose comme ça. Donc après, on peut discuter de ce que c'est que les frontières alpines. Moi, j'ai décidé de les faire commencer à la frontière entre la Croatie et la Slovénie, et puis après jusqu'à Vintimille, ici en France. Donc les deux extrêmes, Vintimille et la frontière entre la Grèce et entre la Slovénie et la Croatie, c'est les deux endroits où il y a eu plus de morts que j'ai pu reconstituer. Pas seul, hein, c'est toujours en collectif qu'on fait ce genre de travaux. Mais vous voyez qu'il y a quand même un nombre de morts qui augmente de manière assez claire à partir de 2015. 2015 étant le moment dans lequel on a remis les contrôles aux frontières. Et je vous parlais de ce reportage parce qu'il est sorti aujourd'hui. Donc, je voulais vous le montrer. Donc, qui a tué Blessing Mathieu, une contre-enquête citoyenne. Je ne parle pas là. C'est les personnes de tous migrants et toutes et tous migrants qui parlent et qui racontent. C'est un peu le récit de cette contre-enquête qui a commencé pour moi en 2021. Donc c'est depuis 2021 qu'on travaille sur le cas de Blessing Mathieu. L'association Tous Migrants a commencé le 8 mai 2018. Non, on a découvert le cadavre le 10 mai 2018. Et donc à partir du 10 mai 2018, ils ont commencé à faire l'enquête et la contre-enquête. Parce que l'enquête, on l'a amenée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme quand même. Et ça a toujours été classé sans suite. Voilà, donc vous pouvez l'écouter. Moi-même, je ne l'ai pas encore écouté en entier parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Et je voulais terminer avec une image pour voir si vous vous rappelez. Et puis après, un extrait d'un texte d'un journaliste que j'aime beaucoup. C'est effectivement les personnes migrants qui arrivaient en Albanie, où on parlait aussi d'invasion de l'Italie et tout ça. Je sais pas, ces images, je ne sais pas si ça vous parle, parce que peut-être l'Italie est un peu loin, mais quand même. Et j'aimerais bien vous lire ça. Et j'aimerais bien vous lire en italien, permettez-moi ça, je vous le traduis en français, je vous le garantis. Com'è che sono spariti gli albanesi? Se incrociamo i dati, si capisce che hanno cominciato a sparire dalla crocefissione mediatica, dal centro del problema, quando semplicemente sono cambiate alcune leggi e andare e venire dall'Albania all'Italia è diventata una cosa un po' più normale. Che si poteva fare comprando un biglietto e salendo su un traghetto. Una nave normale. Non una nave sommersa di corpi e a rischio di affondare. Perché affondavano anche le navi degli albanesi. E morivano gli albanesi. Adesso non muoiono più. Vanno e vengono, si muovono. Così possiamo dire che l'integrazione smette di essere un problema quando dai luoghi si può andare e venire. Je la lis en français? Ah, ouais, s'il vous plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Comment cela se fait-il que les Albanais aient disparu? Si nous croisons les données, on comprend qu'ils ont commencé à disparaître de la crucifixion médiatique, du centre du problème, quand simplement certaines lois ont changé. Et venir en Italie, depuis l'Albanie, est devenu une chose un peu plus normale. Qu'on pouvait le faire en achetant un billet et en montant sur un ferry, un bateau normal. Non pas un bateau submergé de corps qui risquait de couler, car le bateau des Albanais coulait. Et ils mouraient, les Albanais. Maintenant, ils ne meurent plus. Ils viennent et repartent. Ils bougent. Ainsi, nous pouvons dire que l'intégration arrête d'être un problème quand on nous permet d'aller et de venir. Voilà, merci.